Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Alors, Charles me disait, juste en entrant dans le studio, Inès Reg a tout avoué. Voilà.
Mais je ne sais pas qui c'est, est-ce qu'elle a avoué ? Je voulais savoir et personne ne me dit rien, moi, dans cette maison.
Non, mais ce serait un petit peu long à expliquer. C'est une personnalité qui a eu des embrouilles dans le cadre de Danse avec les stars sur TF1. Moi-même, j'ai pas vraiment suivi. Mais enfin, voilà, il n'y a pas vraiment plus de choses à savoir. C'est plus,
donc, c'est pas très important qu'elle ait tout avoué.
Alors, non, c'est pas très important.
Je peux vivre sans le savoir.
Oui, exactement. Je pense que moi, vraiment.
Je me suis rassuré là.
Parce qu'on peut tous.
Je me dis, si c'est une femme politique. Et qu'elle a tout avoué, ça, c'est tout à fait exceptionnel, parce que un homme politique qui avoue quelque chose, par exemple qu'il a fait une connerie ou qu'il a eu tort, ce serait tout à fait remarquable.
Donc, effectivement.
Je me disais, peut-être, ça ferait partie de ces gens qui ont eu un réveil et qui se sont dit, non, il faut que je dise la vérité aux Français, je suis nul.
Ouais, non, alors c'est pas vraiment le cas. Je sais pas ce qu'elle a avoué d'ailleurs. Et en vrai, ça ne m'intéresse pas tellement. Et à mon avis, ça n'intéresse pas tellement nos auditeurs non plus.
Bon, ben voilà.
Surtout qu'on est quand même dans un, dans une période où l'actualité est, pour le coup, assez intéressante.
Ils ont libéré.
Oui, Assange.
Assange. Ça, enfin, une bonne nouvelle. Ah, ça, je suis content.
J'ai vu ça ce matin. Je m'attendais pas à voir ça.
Oui. Ils ont libéré Assange. C'est le type qui a fait quand même 4 ou 5 ans de tôle, simplement parce qu'il faisait son métier de journaliste, quoi. C'est quand même. Et que l'Angleterre, qui était soi-disant la patrie de l'habeas corpus, ait laissé un type comme ça, sans jugement, et voulait même le livrer aux États-Unis, c'est. Enfin, je suis content qu'il ait été libéré. Ça prouve qu'il reste un petit peu de dignité outre-Manche.
Oui, effectivement. Sinon, je voudrais justement commencer cette émission avec ce qui se passe outre-Manche, parce que effectivement, il se passe énormément de choses dans le pays. Mais on en oublierait un peu, même si on les a commentées déjà. Les élections législatives, enfin, on appelle ça les élections générales, effectivement, du 4 juillet, donc qui se dérouleront en Angleterre. On rappelle le mode de scrutin, c'est-à-dire il y a 650 circonscription, et c'est winner takes all, c'est-à-dire il y a un seul tour, celui qui arrive en premier gagne la circonscription, point à la ligne. Il n'y a pas de second tour comme chez nous, il n'y a pas de proportionnel de quoi que ce soit. Et donc je voudrais commenter un peu les derniers sondages, parce qu'ils sont assez intéressants, c'est-à-dire que à peu près tous les instituts de sondage, même s'ils ne sont pas d'accord sur le chiffrage, ils notent tous une baisse du Labour, même s'il reste quand même très très haut par rapport au reste, et une hausse assez importante du Reform.
Nigel Farage, qui était le gars qui était à l'origine du Brexit.
Exactement. Donc Nigel Farage était revenu dans la course. À l'origine, il n'était pas sûr d'y aller. C'est-à-dire que c'était Richard Tice qui était le président du parti Reform, qui était donc l'ancien parti du Brexit, mais qui ne s'appelait plus le parti du Brexit depuis que le Brexit avait été fait.
Oui.
À l'origine, c'était effectivement Richard Tice qui se lançait dans la course pour être Premier ministre. Et finalement, voilà, Nigel Farage s'est dit, hop, j'y vais. Et il a mené, donc, il est en train toujours de mener une campagne assez ardue. On voit qu'il est très présent sur les réseaux sociaux. Il a une énergie folle, ce type.
C'est une bête, parce que ça a été là. La bête noire de Bruxelles pendant des années, chaque fois qu'il se levait pour parler au Parlement européen, qui est toujours vide, hein, parce que le Parlement européen se remplissait à toute allure, parce que Nigel Farage disait des trucs qui étaient à pleurer de rire, donc et en même temps il inquiétait les autres. Donc c'est. Pour moi, Nigel Farage, c'est un peu l'exemple de cette Angleterre éternelle du petit propriétaire local, c'est ce qu'ils appellent dans le temps, je crois, des yeomen, c'est-à-dire des gens qui avaient des arcs qui se battaient pour leur liberté. Donc, c'est le bourgeois anglais qui aime la liberté, têtu, et qui veut pas qu'on l'emmerde, quoi.
Qui
veut que la loi soit faite par des Anglais pour des Anglais, que les autres, ils en aient.
C'est
donc,
clair.
Il s'intéresse pas tellement au reste du monde, mais alors, donc, le parti conservateur qui est au pouvoir depuis 14 ans a trahi de façon inimaginable. Ça fait paraître Sarkozy comme un enfant de cœur, en comparaison, quoi. Et, par exemple, ils ont fait une politique qui était complètement, agricole qui était complètement verte. Ils voulaient mettre 30% des terres agricoles là-bas, en jachère. Ils ont laissé rentrer, je sais plus combien de millions d'immigrants. Et enfin, ils ont fait tout le contraire de ce pourquoi ils avaient été élus.
Oui, tout à fait.
On leur avait demandé d'organiser le Brexit. Ils ont tout fait pour que ça n'ait pas lieu. Puis après ça, ils ont essayé de garder des tas de trucs européens en douce, comme la Cour européenne de justice, etc. Donc, le parti conservateur, depuis 14 ans, a gouverné, mais vraiment contre ceux qui l'ont élu, au profit d'une classe de bobos qui ont beaucoup de choses à voir avec celle gouvernée à Paris depuis les élections de Macron. Et donc là, il est certain que le peuple ne va pas voter pour ces gens-là. C'est fini, ils sont morts. Donc, au point que le Parti conservateur, qui est le plus vieux parti du monde, il existe depuis 1840, je ne sais pas quoi, même avant, se retrouve dans une situation où il pourrait disparaître complètement. Il pourrait avoir zéro élu.
Oui.
Ce serait une très bonne chose, parce qu'ils ont tellement, trahi, ils ont tellement été... Et donc, il faut savoir que le Parti conservateur, c'était une bête un peu curieuse. Vous aviez les chefs qui avaient tous fait Eton, qui étaient tous de grandes familles, etc. Et puis les troupes qui étaient des gens comme Farage, qui pouvaient, ce qu'on appelle en Angleterre des professionals, c'est-à-dire des avocats, des huissiers, donc c'était les troupes de marche du Parti conservateur. Et là, c'est en quelque sorte, c'est le Parti conservateur. C'est Farage qui est en train de liquider les élites du Parti conservateur.
Ouais.
Et la question qu'on se pose, c'est comme s'il y aura trois candidats dans chaque circonscription. Bon, s'il y a, mettons que la droite fasse 55% d'Angleterre, s'il y a 27, 27 et 45, il n'y aura que des députés travaillistes. Mais la question qui est intéressante, c'est est-ce que quand les gens, si d'un seul coup Farage commence à passer nettement au-dessus des conservateurs, les gens vont se dire, plutôt que de voter pour mon conservateur habituel, qui est de toute façon qui m'a trahi, là, je vais peut-être venir. Donc, il n'est pas du tout impossible. Je sais, c'est pas ce que pensent les spécialistes, parce que j'ai des copains en Angleterre qui m'en parlent. Ils me disent, non, tu as tort. Donc, il est possible que j'ai tort. Mais je me dis que c'est le genre de surprise, on peut avoir une. C'est le genre d'élection, on peut avoir une surprise, parce que vraiment, Farage est en train de passer à 19, je crois que les conservateurs sont à 17.
Ouais, globalement, c'est dans ces eaux-là.
C'est dans ces eaux-là. Et donc, si jamais il passe à 22, 23, 24, les gens vont se dire, bon, moi, je laisse tomber les conservateurs, je vote pour Farage, quoi. Donc, il peut y avoir à un moment une espèce de barrage qui cède.
Ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, forcément, par rapport au mode de scrutin, il y a une sorte de vote utile qui se fait par nature. C'est-à-dire que, vous dites, par exemple, si vous avez le Reform qui est à 10% et que vous avez, je sais pas, les conservateurs qui sont à 25, quelque chose comme
ça.
Vous votez pour les conservateurs parce que même si vous avez de la sympathie pour Nigel Farage et tout, vous vous dites oui, mais si je vote pour le Reform, eux ils ont aucune chance de se faire élire, alors que moi je vais faire élire un travailliste en faisant ça, donc je vais pas faire le con et je vais voter conservateur même si je suis conscient de tous les problèmes internes des conservateurs. Le truc c'est que justement là, comme on a tous les sondages sont d'accord là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a un mois à peu près il y avait quasiment une dizaine de points de différence entre les deux. Aujourd'hui, à peu près tous les sondages s'accordent pour dire qu'il y a une convergence, voire le Reform est en train de passer devant le parti conservateur. C'est le cas depuis un peu plus d'une semaine. Et par conséquent, si vous dites, dans ma circonscription, il y a le Reform, je sais pas, il peut faire 25% des voix et les conservateurs qui vont faire, je sais pas, 17. Là, à ce moment-là, tous les conservateurs vont se dire, si je veux faire barrage au Labour, si je veux empêcher un député Labour d'être élu, il vaut mieux voter pour le Reform parce que c'est lui qui a le plus de chances de se faire élire.
Voilà. Et le Labour aujourd'hui, ils ont un chef qui a à peu près le charisme d'une huître et qui est un grand garçon et qui est lui d'origine aristocratique. Et on a vraiment envie de voter pour eux comme de se tirer une balle dans le pied, quoi. Donc c'est pas en quelque sorte cette élection, il risque d'y avoir un triomphe du Labour, mais ça sera pas un triomphe du Labour, ce sera un écroulement des conservateurs.
Oui, tout à fait.
Donc ça va être très difficile ensuite de gérer ce pays si dans le fond, vous avez une majorité massive qui représente, je sais pas, 30% de la population. Oui, ils se remettent dans un merdier à la française, quoi.
Ouais. C'est-à-dire que effectivement, en fait, juste les conservateurs ont tellement trahi depuis plusieurs années que juste le vote conservateur est en train de s'effondrer, et donc c'est juste proportionnellement le vote Labour était plus important. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il y a un engouement pour le Labour. Ça veut pas dire ça du tout. D'ailleurs, le type qui est le secrétaire général du Labour fait tout pour faire pour avoir l'image la plus lisse possible, pour vraiment avoir les électeurs un peu au milieu, un peu modérés
il peut y avoir une grosse abstention parce que les gens
il va y avoir sensiblement je pense une assez grosse abstention, surtout par rapport aux dernières élections il y a 5 ans en 2019.
Ils avaient eu 80 voix de majorité, ce qui était énorme.
Ouais, c'était
ils ont trahi d'ailleurs.
C'était gigantesque.
Parce que
Et donc, ce qu'on voit d'ailleurs justement depuis que Nigel Farage est dans la course, c'est que alors que Labour était crédité d'environ 45% des voix, aujourd'hui ils sont à 10% en dessous, ils sont environ à 35%. Ça veut dire que Nigel Farage a pris des voix à ceux qui pensaient
mais
voter
déjà,
Labour.
Mais déjà, la fois dernière, vous avez qu'on appelle le grand corridor rouge qui montait de Londres, je crois Manchester ou Birmingham, là-haut, qui était la grande base industrielle de l'Angleterre, qui était là où il y avait toujours voté Labour. Et lors des dernières voix, Farage avait demandé à ces gens-là qui votaient pour lui de voter pour le conservateur. Donc pour la première fois, le Labour avait perdu pas mal de voix dans la bande industrielle qui correspondait à son fief.
Et d'ailleurs, c'est là que leur réforme peut encore performer.
Parce que là, il n'y a pas des masses de conservateurs. Donc, si toutes les circonscriptions étaient à 49-51, mais c'est pas tellement le cas. Il y a des tas de circonscriptions qui étaient à 70% conservateurs ou 70% Labour. Et là, c'est là où Farage peut placer des députés, quoi. C'est parce que s'il y a 35 et 30, et ben, il peut remplacer des conservateurs.
Ouais.
Alors tout le monde me dit que non, ça va pas marcher. Les positions sont tellement bien tranchées, c'est pas. Mais je me méfie beaucoup des urnes en ce moment, parce que les urnes, depuis quelques années, depuis le Brexit, depuis l'élection de Trump, etc., de temps en temps, les peuples sortent un lapin du chapeau, qui n'est pas triste. Hein. Donc, je vais voir ce que fait Farage. L'ayant pratiqué un peu, je me dis, s'il y a un gars qui peut sortir un lapin du chapeau, un lapin du chapeau aussi, ça vaut rien. Pas un chapeau du lapin. Parce que...
C'est plus dur dans ce sens,
Dans ce sens-là. Aujourd'hui, c'est un chapeau du lapin, il faut être habile. Donc voilà, donc je me dis, je sais pas. Moi, en tout cas, je l'avais regardé cet été. En plus, le 4 juillet, c'est la fête nationale des États-Unis. Donc voilà, ça va être intéressant.
C'est sûr, cette première semaine de juillet, elle va être active.
Elle va être active. Et puis en plus, il faudra après, je vais attendre jusqu'en novembre. Le 5 ou 6 novembre, il va y avoir les élections présidentielles américaines. Mais là, là aussi, il va y avoir du sang sur les murs.
Oui, tout à fait. Donc, effectivement, je pense qu'à ce stade, ce qui est complètement impossible, je pense, c'est qu'il n'y ait pas de majorité Labour. Mais dans énormément de circonscriptions, c'est très difficile à déterminer parce qu'encore une fois, il y a 650 circonscriptions. Donc, il y a des sièges qui se jouent à quelques centaines de voix près.
Vraiment, parfois à une voix, oui.
Parfois, oui, à rien du tout. Donc, c'est très, très difficile de faire vraiment une
puis,
prévision.
Encore une fois,
exacte.
Si vous voulez, quand vous faites des sondages, vos sondages, selon le nombre de gens que vous prenez, ils sont une marge d'erreur, mettons 2% dans chaque sens.
Oui.
Mais quand vous faites un sondage sur deux gars, 2%, c'est pas très difficile. Vous voyez si il est au-dessus des 2%. Mais quand vous en avez trois, vous avez un nombre de combinaisons qui deviennent. Donc, moi, je considère que les sondages, par exemple, en France aujourd'hui, où si on a trois groupes, à peu près, je suis bien incapable de dire.
Les estimations, c'est comme d'ailleurs pour les législatives de 2022. Je regardais ces derniers jours les prévisions des instituts de sondage. Alors, c'est assez facile de mesurer des intentions de vote au premier tour, de dire, tant va voter pour la gauche, tant va voter pour le centre, tant va voter pour la droite. Mais ensuite, savoir le nombre de sièges, c'est extrêmement difficile parce que vous savez pas à l'avance quelle va être la participation, donc ça détermine la possibilité qu'il y ait une triangulaire, ce genre de choses. Est-ce que s'il y a une triangulaire, il y a le candidat de la gauche ou du centre qui se démet pour dire moi je veux faire barrage au RN, etc. Et même s'il le fait d'ailleurs, comment vont se comporter les électeurs derrière, c'est hyper compliqué à comprendre. Il y a énormément de paramètres et des petites variations de ces paramètres, derrière, ça a des conséquences assez...
Il faut
aussi
avoir 2,5% des inscrits. Donc, il y a des tas de gars qui vont se retrouver troisième, qui pourraient se maintenir, mais qui vont pas pouvoir se maintenir parce qu'ils n'auront pas fait 12,5% des inscrits. Donc, ça aussi, c'est un truc, une variable. Donc, bref, c'est la bouteille à l'encre. Et ça fait un quart d'heure qu'on vous parle pour vous dire qu'on n'a aucune idée, quoi.
Oui, c'est un peu ça. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que Nigel Farage a la possibilité, ça me paraît pas exclu, de remplacer le parti conservateur.
Ça ne me paraît pas exclu.
Ça paraissait très improbable, mais pas impossible il y a un mois. Aujourd'hui, ça me paraît peut-être pas probable, mais ça me paraît vraiment possible.
Oui, c'est tout à fait ça.
Voilà. Donc voilà pour l'actualité d'Outre-Manche, dont j'imagine on vous a assez peu parlé parce que on est quand même assez occupé en France. Et d'ailleurs, on va en parler puisque hier, puisque là on tourne le mardi, donc hier il y avait Jordan Bardella qui était en conférence de presse et qui en fait dévoilait les grandes lignes de son programme. Donc je voudrais en parler un petit peu, surtout la partie économie, parce qu'à la limite, bon, tout ce qui est international, éducation, etc., c'est retraite, c'est intéressant. Je vais peut-être commencer d'ailleurs avec énergie. Donc on va en discuter, je vais énumérer quelques mesures qu'il propose, et vous allez me dire éventuellement ce que vous en pensez. Donc, énergie et environnement, Bardella a confirmé son ambition de baisser la taxe sur la valeur ajoutée, donc la TVA, de l'énergie à 5,5%, mesure chiffrée à 17 milliards d'euros selon Bercy, estimant que cela est possible dans le cadre européen actuel. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Cela est impossible dans le cadre européen actuel ?
Oui, enfin, c'est selon Bercy. Hein, c'est...
Oui, non, mais ça veut dire que de plus en plus, le Rassemblement national... chaque fois qu'il voudra faire quelque chose, on va lui dire « Ah non, mais Madame van der Leyen n'est pas d'accord. »
Oui.
Donc, à un moment ou à un autre, il faudra qu'il se pose la question « Pourquoi j'ai été élu, quoi ?»
Ouais. Oui, c'est un peu ça. Pourquoi on a fait des pieds et des mains pour dire « Vous vous rendez compte, le Rassemblement National est au pouvoir, etc. Si derrière, ils ne peuvent rien faire. »
D'abord, ils ne peuvent rien faire. Et si les gens qui les empêchent de faire, c'est des gens qui ont été élus par personne.
Ouais.
Appuyés sur des cours de justice qui ne représentent qu'elles-mêmes, puisqu'elles n'ont pas de... Donc, le vrai problème, c'est que vous regardez le programme, à part le programme de M. Macron et de ses troupes, qui vont se retrouver à peu près une dizaine à l'Assemblée, si tout va bien. Mais s'il y a les deux autres qui ont des programmes, vous regardez ça et vous dites que ces deux programmes, quels qu'ils soient, sont complètement antinomiques avec ce qu'a décidé l'Europe pour la France. Quoi.
Oui, tout à fait.
Donc, si vous regardez l'énergie, vous regardez n'importe quoi, l'immigration, tout ça. Et avant même qu'on soit condamné par les cours européennes de justice, je suis sûr que le Conseil constitutionnel aura fait le nécessaire pour qu'on puisse rien faire.
Ah, ça, oui, bien
sûr. Donc, il faut bien se rendre compte que si le Rassemblement national est élu, il va se heurter à l'international des petits hommes gris.
Ouais.
Qui vont pas être là pour l'aider, quoi.
Oui, oui. D'ailleurs, en vrai, c'est un peu la partie la plus intéressante. C'est vraiment la partie expérimentale, parce que jusque-là, ça fait 20 ans qu'on gueule sur l'Union européenne en disant « Oui, mais l'Union européenne nous fait faire ceci et nous fait faire cela. » Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de bras de fer engagé depuis Maastricht entre le gouvernement français et la Commission européenne. Et là, forcément, ils vont être obligés d'aller au bras de fer. Parce que soit ils vont au bras de fer, soit ils disent « On abandonne. »
Mais voilà, et c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, c'est encore une fois ce que je me tue à dire, c'est qu'on peut pas être à moitié enceinte.
Ouais.
Ou vous êtes souverain.
Ou vous l'êtes pas.
Donc dire je vais négocier les trucs de souveraineté. Si vous négociez votre souveraineté, par définition, vous n'êtes plus souverain. Donc je sais pas exactement ce qui va se passer, mais on rentre dans des temps un peu troublés, il me semble tout à fait évident que il va y avoir un clash portant sur la souveraineté entre l'Europe et le gouvernement français de l'époque. C'est pas possible autrement. Et mais à ce moment-là, la seule façon de le trancher, ce sera un référendum.
Oui, oui, c'est pour ça qu'il faudrait... parce que on dit souvent, le RN est aux portes du pouvoir. Alors certes, mais pas de tout le pouvoir.
Non, parce il n'est pas aux portes du pouvoir, parce que le gouvernement français a abandonné tellement de pouvoir qu'il est aux portes, si j'ose dire, d'être monsieur... Bardella peut devenir le gouverneur adjoint de l'État France qui n'existe plus. Quoi.
Ouais.
Donc, je veux dire, ils ont mis 40 ans à arriver là où ils sont, ils ont fait un beau parcours, mais aujourd'hui, ce qui m'étonne, c'est qu'ils essayent de faire campagne en disant qu'ils ne vont pas rien changer en Europe. Ben, à ce moment-là, ce n'est pas la peine qu'ils se présentent.
Ah non, mais c'est sûr, c'est obligé. Ils sont obligés d'aller au bras de fer avec l'Europe.
Ils sont obligés de dire la souveraineté de la France est supérieure et antérieure à celle de l'Europe.
Oui.
C'est-à-dire que vos cours européennes, je ne reconnais pas leur jugement, vos trucs et machin, mais voilà, c'est tout. Quoi. Donc il faut défaire tout ce qui a été fait depuis 20 ans.
Oui, c'est clair. Mais alors sur le fond, admettons qu'il n'y ait pas de problème pour appliquer cette mesure. La baisse de la TVA à 5,5, est-ce que c'est...
Bon, si vous voulez, comme disait Milton Friedman, encore une fois, buvons un coup.
Ouais.
Mais j'ai jamais vu une baisse des impôts que j'aimais pas.
Oui, exactement.
Donc, par contre, j'ai jamais vu un type à Bercy qui aimait une baisse des impôts.
Non, ça, bah non, ça je crois que... Non, bah ils sont spécialistes dans l'idée de d'inventer des nouvelles taxes.
De faire des trucs auxquels personne ne comprend rien.
Ouais, exactement.
Comme la taxe qui est payée ici dans ces bureaux par quelques-uns des employés, qui est une taxe qui va en direction des syndicats, qui sert à financer les syndicats, et qui est une contribution volontaire obligatoire. Non, mais je vous assure, je l'ai vu. Hein,
je
l'ai vu.
Non, mais je sais.
Contribution volontaire obligatoire. Mais c'est quoi ce truc? Donc, vous prenez votre feuille de paiement en Angleterre ou en Suisse, vous avez une demi-page qui est remplie, et en France, vous avez 5 pages. Quoi.
Ouais.
Donc, la première des choses, c'est que non seulement il faut abaisser la TVA, mais il faut couper toute une série de trucs. Il faut cesser de financer les syndicats, il faut cesser de financer la presse, il faut fermer le conseil économique social, il faut fermer le conseil constitutionnel. Donc ils ont du boulot, hein.
C'est clair. Mais en plus de ça, j'imagine que les salariés de ces bureaux ne sont pas très ne se sentent pas très représentés par un syndicat en particulier. Donc je vois pas
quand
pourquoi...
vous voyez qu'il y a un syndicat comme la CFTT ou je sais plus. Qui disait qu'elle allait virer du syndicat tous les gars qui étaient au Rassemblement National, mais je croyais que les syndicats faisaient pas de la politique.
Ah bah là, ils en font bien. Et encore, la CFDT, c'est le syndicat le plus à droite qui existe.
Enfin bref. Et donc, la vraie question qui va se poser, c'est imaginons que le Rassemblement National soit élu avec une majorité, il y a un certain nombre de gens en France qui pensent avoir la légitimité pour dire « il faut désobéir ».
Ouais. Oui, tout à fait.
Et donc, vous allez avoir maintenant des corps constitués, des syndicats, etc., qui vont se dresser contre la volonté du peuple.
Oui, ouais, c'est clair. Ah bah, les juges, bizarre, les profs, tout un tas de
voilà. Ouais. Mais donc, je sais pas, ça me paraît bizarre que si quelqu'un a voté, on se met la cuillère. Donc, ça veut dire que ce que disait Jean-Paul II, encore une fois, que la démocratie ne pouvait exister que dans le cadre d'une nation. Parce que dans la nation, celui qui perdait l'acceptait. Ça veut dire que maintenant, nous sommes arrivés à un tel état de déliquescence de notre nation que le perdant n'accepte plus d'avoir perdu.
Mmh.
Ça veut dire que nous ne sommes plus en démocratie.
Mmh. Ah bah, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir des recours pour fraude électorale, des trucs comme ça. C'est
pour
certain.
Ça que...
Nouveau Front Populaire, hein, d'ailleurs. Je pense pas de renaissance, mais le Nouveau Front Populaire va très très mal digérer si le RN a une majorité absolue.
Et bon, on s'en fout.
Oui, non mais moi c'est sûr, je m'en fous. Ça me fait un peu rire. Enfin, mais...
Ça fait des années que je vis avec des parlements qui me conviennent pas tellement que ça, quoi.
Oui, oui.
J'en sais pas, j'en ai pas fait des caca nerveux. Hein.
Oui.
Je me suis pas mis en grève.
Ah non,
d'ailleurs,
mais...
tout le monde s'en serait foutu, mais. C'est vrai, quoi.
Oui. Non mais c'est vrai, eux ils sentent vraiment tout permis pour le coup.
Mais non, c'est que la gauche intimement est persuadée qu'elle est légitime. Qu'elle est dans le sens de l'histoire, qu'il n'y a qu'elle qui soit légitime. Donc, quand quelqu'un qui n'est pas de gauche ou qui n'est pas soutenu par la gauche, on a la gauche ne vote pas, est élu, ça veut dire que ça n'est pas possible. Puisque c'est ce que disait Bertolt Brecht là, dans sa pièce. Là, c'était le peuple a déçu le parti, il va falloir changer de peuple.
Mmh.
Et c'est ce qu'ils font.
Oui, oui, oui.
Il faut venir un autre peuple.
Bah c'est clair. Bah déjà, faut voir, par exemple, j'avais vu une carte, je ne saurais pas comment la retrouver, mais j'avais vu une carte qui était assez intéressante, qui montrait la répartition géographique du vote Mélenchon il n'y a pas si longtemps, en 2017. Et on voit que, vraiment sur toute la France, il y a pas mal de gens qui votent Mélenchon. Alors c'est pas énorme comme vote, il avait fait 17% je crois à l'époque, ce qui était pas mal, 17 ou 18, et c'était assez homogène en fait sur tout le territoire. Et aujourd'hui on voit vraiment que sur tout ce territoire qu'on appelle la France périphérique, selon l'expression de Christophe Guillouis, le vote Mélenchon est totalement tombé, mais il a été divisé par plusieurs chiffres. Et en revanche, ce vote s'est complètement urbanisé, donc c'est vraiment le vote des banlieues, vote de certaines villes, dans certains quartiers de Lyon, dans le nord-est parisien, c'est vraiment très 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 concentré. D'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'il y a autant de députés qui sont élus dès le premier tour, en fait, surtout en Seine-Saint-Denis, ils avaient tout raflé en 2022, ils ont eu toutes les circonscriptions de Seine-Saint-Denis. Oui, il a vraiment changé de peuple en l'espace de 7 ans.
C'est ça.
Ouais.
Ben voilà, donc, alors ce qui va se passer en France, mais moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est que s'il y a des mouvements sociaux et tout, qui ne veulent pas faire ceci ou pas faire cela, en plein milieu des Jeux Olympiques, ça va faire des ordres.
Hein. Ah oui, ça va faire un sacré bazar, oui. Ouais.
Ça va faire des ordres, alors. Donc,
ouais.
Donc tout ça devient passionnant, c'est-à-dire que. J'ai l'impression de vivre dans un théâtre d'ombre quand je vois des silhouettes dont je pensais qu'elles avaient été se cacher tellement elles avaient honte, comme, je sais pas, M. Copé ou M. Barnier, qu'on voit revenir. On se dit, mais c'est quoi, c'est le théâtre des horreurs. Et ce qui est étonnant, c'est que ces gars-là se présentent sur le plan de la morale, en disant, quand vous avez vu l'ensemble de leur carrière, un type comme Barnier qui a abandonné toutes les souverainetés, qui a voté pour toutes les saloperies, Copé pareil, vous dites, mais parler de la morale?
Voilà.
De quoi parle-t-on, quoi? Ils savent pas ce que c'est.
En parlant de morale, le dernier grand soutien du Nouveau Front Populaire s'appelle Dominique Strauss-Kahn.
Oui, c'est vrai.
Voilà, donc la grande morale. Hein. J'imagine que Dominique Strauss-Kahn est tout à fait un être bien plus moral que ne l'est Jordan Bardella, par exemple.
Bien sûr. Et puis surtout, il en a donné les preuves multiples et variées.
Bien sûr.
Donc tout ça, si vous voulez, donc on revient à la même chose, c'est que la gauche a le monopole, pas du cœur, comme l'avait dit ce bon Giscard, mais du droit de dire qui est moral et qui est immoral. C'est-à-dire que la gauche, dans le fond, c'est une église qui s'est arrogé le droit d'exclure, d'excommunier. Mmh. Ouais. Et donc, les excommuniés, ben, personne n'avait le droit de leur parler dans les temps anciens, ils erraient dans la campagne. Donc, ben voilà, mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne se sont pas rendus compte, ces imbéciles, que... plus personne ne croyait à leur excommunication.
Déjà, c'est très intéressant ce qui se passe en interne chez la gauche, parce que la campagne, quand même, dure 3 semaines, 4 si on compte au total entre le moment de la dissolution et le moment du second tour, et ils sont déjà en train de s'écharper en interne. Il y a Mélenchon qui est digne des meilleures heures de ce bon Staline, qui est en train de purger son parti vraiment à une vitesse folle et avec une très grande efficacité, avec le soutien d'ailleurs de l'immense majorité des militants, je le vois. Et donc il y a une espèce de front anti-Mélenchon de la gauche plus social-démocrate, un peu plus modéré, qui veut faire face à Mélenchon, mais en même temps Mélenchon est vraiment soutenu par le cœur militant de cette gauche-là. Donc il y a un gros affrontement en interne, et il y a déjà des excommunications au sein même de la gauche, avant même le premier tour des élections. C'est quand même très intéressant.
Vous croyez qu'ils pourraient s'entretuer?
Ah oui. Mélenchon, je crois capable de tout.
Faut leur donner des armes, faut les aider, là, non?
Ah oui. Bah, en plus, Mélenchon, il a sa copine Chikirou, c'est... Ah, c'est quelque chose, hein?
Oui.
Waouh! Ah, waouh!
J'ai
peur de cette femme.
C'est celle qui assistait aux décapitations sur la plaine, qu'on appelait les tricoteuses à l'époque, pendant la Révolution française. Celle qui serait passée la journée à faire du tricot en regardant les têtes tomber, quoi.
Ah oui. Ah bah là.
C'est de la qualité, ça. Donc, c'est tout à fait étonnant ce qui se passe, parce que cette espèce de. La gauche prétend avoir le droit de dire quelle est la morale collective. Or, une morale collective, ça ne peut pas exister. Il ne peut exister que des morales individuelles. La loi est collective et elle s'applique à tout le monde de la même façon. Donc, la gauche tient un discours schizophrène, comme elle le fait toujours, c'est-à-dire que nous qui représentons la morale collective, au nom de cette morale collective, si le Rassemblement national est élu, nous n'allons pas le reconnaître. Mmh. Mais ça, ça s'appelle un délit. Quelqu'un qui refuse le résultat de l'élection, on peut le mettre en taule. Mmh. Donc c'est extraordinaire de voir, dans le fond, comment ils font toujours monter la morale. En fait, c'est des curés, quoi.
Oui.
En fait, c'est des petits curés aigris, méchants, laids.
Mmh. Oui, et qui... Et qui montrent de plus en plus leur vrai visage. C'est-à-dire que là, vraiment, ils...
T'as plus la haine.
Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, c'était encore les élections européennes et tout. Bon, ils étaient... ils se voulaient un peu bon teint, gauche mondaine, tout va bien.
Ils puent la haine. C'est-à-dire que vous regardez Mélenchon, et ce type pue la haine, il est, vous le sentez méchant, vous le sentez violent, ouais.
Mais d'ailleurs, il y a un énorme rejet des Français pour la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. C'est vraiment hallucinant. Et 80% des Français ne veulent pas avoir Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Alors, on pourrait se dire déjà quel est le problème des 20% restants. Mais ça fait quand même beaucoup, 80%. Il y a peu de personnes qui suscitent un tel rejet quand même dans la population française.
Mais ce que je dis, et puis les gens dont ils s'entourent. Et puis l'autre qui dit là, la grosse là, qui dit qu'elle a plus d'expérience
parlementaire
qui
Léon Blum a quelques lacunes sur la carrière de Léon Blum, effectivement.
Et alors j'ai lu un truc qui dit, elle disait, cette bonne femme, elle disait, nous avons été les héritiers de la commune, nous avons été les héritiers du Front populaire, nous avons été les héritiers de la résistance. Et bouge pas, les héritiers de la résistance, la moitié ou les deux tiers de la résistance, c'est des mecs de droite.
Oui.
Faudrait quand même un jour le dire, quoi.
Oui, oui. Surtout la résistance de 40-41, parce que effectivement, après la fin du pacte germano-soviétique, effectivement, il y a quelques communistes qui ont commencé à se rajouter. Mais enfin, on les a
Un petit peu qui y avait à Londres, il y avait pas. Donc, si vous voulez, cette façon qu'elles ont de raconter l'histoire, où ils ont toujours été, eux et leurs prédécesseurs ont toujours été dans le camp du bien. Mmh. On les a assez peu vus, je sais pas, pendant le massacre des Cambodgiens, on les a pas vus, pendant le massacre des Juifs en 42, de 41 à 45, on les a pas vus non plus. Donc, moi je suis absolument ébloui par cette capacité à s'auto-congratuler des actes héroïques que certains ont fait dans le passé et se les attribuer.
Ah non, mais ils ont vraiment une capacité. Il y en a qui ont vraiment une inculture ou qui vraiment se trompent. Presque de bonne foi, et il y en a qui sont vraiment à fond dans le mensonge. Là, par exemple, justement, hier, par rapport à cette conférence de presse de Jordan Bardella, c'est très simple. Il prenait plusieurs questions à la fois, 3 ou 4, donc il y avait plusieurs journalistes et qui donnaient leurs questions. Bardella, du coup, les notait, je crois, sur un papier, sur son pupitre, et donc voilà, il y avait quelques secondes à chaque fois de flottement entre chaque question, il demandait une autre, etc. Et puis après, hop, et il commence son raisonnement, et il répond aux 3-4 questions à la fois. Et il y a un moment où il y a une journaliste, je crois, de Libération, qui lui dit « Oui, mais alors votre problème avec justement la baisse de la TVA, c'est que vous allez avoir du coup des rentrées en moins, 7 ou 17 milliards. Comment vous comptez, en quelque sorte, compenser cette perte de recettes ?» Et donc il lui dit ok, très bien, il note la question, et donc il y a peut-être une dizaine de secondes de flottement, et ensuite il commence son raisonnement en disant bon, voilà, et donc il répond pas seulement à cette question mais aussi aux 3 autres qui ont été posées avant. Et cet extrait a été isolé, c'est-à-dire que ça a été retweeté sur tous les comptes de gauche et même énormément de comptes de centristes, de journalistes, de personnalités politiques, même Gérald Darmanin l'a reposté, où en fait on a juste l'extrait où la journaliste pose sa question, Bardella note la question mais du coup sans y répondre pour le moment, et ensuite allait commencer à répondre. Et donc ça a été interprété comme « Ah, vous avez vu, Bardella ne sait pas répondre à cette question ». C'est-à-dire que c'est une manipulation totale, et ils savent qu'ils manipulent.
J'ai vu un truc qui s'est passé aux États-Unis qui aussi m'a laissé pantois, c'est que les démocrates aux États-Unis ont dit que Trump avait reçu de l'argent, je sais pas quoi, de la Chine, de la Russie, enfin des trucs habituels. Et donc il y a un parlementaire républicain qui a été chercher ce sur quoi il s'appuyait. Et Trump a construit à 2 blocs des Nations Unies, un très beau building, et les gens ont acheté à l'intérieur de ce building des appartements, Et comme c'était à deux rues, ben, vous avez les Saoudiens qui ont acheté des appartements, vous avez les Chinois qui ont acheté des appartements, parce que c'était pratique, c'est au coin de la rue, quoi. Et donc, les démocrates ont pris tous ces achats et ont dit, voyez, ces gars-là, ils ont filé 2 millions de dollars à Trump. Ils ont pris, donc, ils ont pris l'achat des appartements faits par les délégations aux Nations Unies comme un don de la délégation à Monsieur Trump.
Ouais.
Mais et ça, c'était des journalistes. Et donc, vous vous dites, mais ce sont des ordures pour faire des coups comme ça, quoi.
Ouais, ouais.
C'est comme si vous voulez.
C'est-à-dire que alors ils sont pas habitués effectivement à ce qu'en fait on crée de la richesse. Voilà, ils savent pas ce que c'est vendre.
Non, mais
un
surtout
truc.
Le type qui fait un développement immobilier, qui vend des appartements, que ce soit acheté par un Saoudien ou un Chinois, il en a rien à cirer.
Oui.
C'est pas son. Il a pas reçu une. Ils n'ont pas acheté tout l'immeuble pour sortir le Trump.
Alors, effectivement, c'est
un mensonge.
C'est intéressant, peut-être que les démocrates ne voudraient que Trump ne vende ses produits qu'à des citoyens américains.
Oui,
ce qui serait une sorte de discrimination par ailleurs.
Par ailleurs, oui, ou aux Palestiniens, ou je sais pas quoi. C'est encore mieux.
Ouais. Original. Non, mais ils n'ont aucune limite. C'est l'empire du mensonge, effectivement.
C'est l'empire du mensonge. Donc, on arrive peut-être à la fin de l'empire du mensonge, mais.
Ouais.
Ce qui est rigolo, c'est que maintenant, les gens utilisent l'empire du mensonge. Je l'ai vu plusieurs types le dire. Il faut sortir de l'empire du mensonge. Je me suis dit, tiens, d'où ils sortent ça? Mais on est passé de l'empire du mensonge.
Faut mettre un copyright sur l'expression.
Ah oui, c'est... Faut pas mettre des copyrights sur les bonnes idées parce que.
Oui, parce que
ça les empêche de se développer.
Exactement. C'est comme Elon Musk qui veut pas faire de patents, comment on appelle ça, de brevets.
Brevet.
Et il veut pas faire de brevets, par exemple, avec Tesla et tout, parce qu'il dit, en fait, à chaque fois, c'est juste un frein, justement, au développement technique. Donc,
c'est une façon d'essayer de se constituer une rente.
Oui, exactement. On continue un peu sur le programme, donc toujours sur l'énergie. Il souhaite refaire du nucléaire un élément majeur, fondamental, structurant du mix énergétique. Bon.
L'impression, c'est très bien, mais on n'a plus d'ingénieurs, on n'a plus de corps enseignants, parce que ça fait 20 ans que ce grand idiot de Jospin qui a fermé le surgénérateur, là.
Oui, Superphénix.
Superphénix, eh bien, si vous voulez, depuis, vous ne connaissez pas un ingénieur de 25 ans qui soit dit « je vais aller bosser dans le nucléaire ».
Oui, oui, il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment très rare, c'est sûr. La filière a été décimée en 20 ans,
décimée en l'espace de... Donc, ouais. Alors j'ai regardé en Chine, aujourd'hui, la filière nucléaire est en plein boom. Je crois qu'ils font 6 centrales nucléaires par an. Et surtout, ils offrent de faire des centrales nucléaires à d'autres pays, dans le Golfe ou partout, à peu près à 40% du prix que prend EDF.
D'accord.
Parce que c'est plutôt une technologie française qu'ils utilisent les Chinois.
Okay.
Donc ça veut dire que dans les années qui viennent... 70 à 80% des panneaux solaires viendront de Chine. La quasi-totalité des centrales nucléaires viendront de Chine. Tout le développement énergétique du monde à venir trouvera sa source en Chine. Et tout le développement, tous les fossiles viendront, et les matières premières viendront de Russie. Donc, je sais pas, mais moi, si j'étais un gouvernement français aujourd'hui, je me dirais... Qu'est-ce qui m'amène exactement les Américains? Ni énergie, ni fossiles, ni rien du tout. Puis en plus, ils me foutent dans une guerre dont j'ai pas vraiment envie. Donc, les Américains peuvent pas aller voir un pays comme l'Indonésie et lui dire, on va vous faire 6 centrales nucléaires parce que vous en avez besoin. Parce qu'ils sont pas les gars, parce qu'ils sont pas les... Tandis que les Chinois, ils peuvent. Donc, les gens, quand vous regardez la montée en puissance industrielle de la Chine, depuis 10 ans, c'est inimaginable. Aujourd'hui, c'est les plus gros exportateurs de voitures au monde.
Oui, oui. En plus de ça, c'est surtout dans le cadre de toutes les politiques en fait écologiques, écologistes. Ça nous mènerait directement en fait à un niveau de balance commerciale négative avec la Chine, qui est assez hallucinant. C'est-à-dire que tout ce qui est batterie, effectivement, tout ce qui est véhicules électriques,
tout ce qui est panneaux solaires
et tout, effectivement, les Chinois sont les plus forts en termes de rentabilité.
Et si vous voulez faire un train rapide qui traverse Java, ce qu'ils ont fait là-bas, les Chinois vous le financent et vous le font à un quart du prix d'un TGV, quoi. Et c'est aussi bien. Donc, on est là en train de disputer, de s'engueuler, etc. Et on voit pas que toute l'Asie, en particulier autour de la Chine et maintenant l'Inde, sont en train de se développer mais sans que pour la première fois, ce soit nous qui soyons les maîtres technologiques de leur développement. Mmh. Mais je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire.
Oui, oui. Bah, c'est sûr, il y a des gens qui sont vraiment bloqués 15 ans, 20 ans en arrière, qui pensent que la Chine, c'est juste encore le...
Ils font des t-shirts.
Ouais, ils font des t-shirts, des pulls. Alors aujourd'hui, c'est plus vraiment en Chine qu'on fait ça. Bon, il y en a quand même un peu, mais aujourd'hui, le développement technique chinois, ça a été vertigineux en 15 ans.
Et dans la marque de voiture électrique chinoise, là, qui vient d'en sortir une tout à fait exceptionnelle, mais il y a 10 ans, il fallait qu'un type travaille 2 ans pour pouvoir se payer une voiture. Quasiment, c'était. Et aujourd'hui, ils en sont à peu près à 4 ou 5 mois. C'est-à-dire que la hausse de la productivité et la baisse des prix fait qu'aujourd'hui, toute l'Asie est en train de devenir capable d'acheter des produits de bonne qualité. Et nous ne sommes pas du tout compétitifs, ni sur les prix, ni sur la technologie. Mmh. Donc voilà un sujet qu'on pourrait porter à la connaissance des Français pour faire une campagne intelligente.
C'est vrai, tout à fait.
À la place de discuter, est-ce que ça va coûter 17 milliards Donc encore une fois, on a eu un écroulement intellectuel dans ce pays dans les 20 dernières années qui est inouï.
Oui.
On a donné la parole au crétin, il la lâche pas.
Mmh. Alors effectivement, il y a un truc qui me gêne un peu dans ces calculs programmatiques à chaque fois, c'est effectivement oui, mais alors ça amène 15 milliards de rentrées, ça nous sort 22 milliards. C'est un peu saoulant déjà parce que tous les types qui sont au pouvoir depuis 40 ans, ils ont tous eu un programme qui était bien calculé et tout, et à chaque fois on était quand même en déficit, on a augmenté la dette, aujourd'hui on est à 3 100 milliards. Je veux dire, en 2017 le champion du programme bien rodé, c'était quand même Macron. On a vu ce que ça donnait à la fin. Et en fait, on ne se pose la question que pour les rentrées de l'État. Mmh. On ne se pose pas vraiment la question de ce qu'on pourrait gagner en productivité.
Et j'ai laissé le secteur privé tranquille.
Ouais.
Et ça me laisse... ça m'attriste énormément, parce qu'on voit tous ces hommes politiques français, il n'y en a pas un qui comprend la notion de création de valeur, il ne sait pas ce que c'est, et ils pensent tous que l'économie, ça démarre avec la consommation. Ben, si l'économie démarrait avec la consommation... il me semble qu'on ne serait jamais sorti du paradis terrestre. Quoi. Mmh. Donc, l'économie commence avec l'épargne. Ensuite, vous passez à l'investissement. Il faut transformer l'épargne en investissement productif, ce qui permet une hausse de la productivité. Mais si l'État prend toute cette épargne pour la filer à des gens qui vont la consommer et il n'y aura plus d'épargne après pour investir, le niveau de vie ne peut que baisser.
Tout à fait.
Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir que tous ces gars-là, ils ont dans leur tête le mauvais logiciel.
Ouais.
Ils pensent que c'est eux, en prenant les bonnes mesures, qui vont créer la croissance économique. Mmh. Ils vont rien créer du tout. Ce qu'ils peuvent faire au mieux, c'est de créer un environnement stable pour que ceux qui sont capables de créer de la valeur la créent.
Ouais.
Mais eux, ils font pas ça. Ils pensent que c'est eux qui sont responsables de la croissance. J'ai créé absolument 250 000 emplois.
Ouais.
Mais vous dites, pas
du tout.
Te crée rien du tout, du con.
Ouais. Éventuellement, t'as peut-être recruté 250 000 fonctionnaires. Là, peut-être.
Mais ça, c'est pas des emplois qui ont été créés, c'est des emplois qu'il va falloir. Donc, c'est un pays qui vit dans l'illusion et le mensonge depuis Mitterrand.
Oui, à peu près. Oui.
Depuis Mitterrand, depuis 81. Où on ment en français en se disant de toute façon ils s'en souviendront pas.
Ouais, et c'était encore un truc que je vous racontais hier qui rebondit un peu sur ce qu'on disait la semaine dernière, parce que la semaine dernière on était un peu plus sur le programme justement du nouveau Front populaire, sur l'histoire de l'augmentation du SMIC à 1 600 euros, etc. Forcément, il y a énormément de d'entreprises, pas forcément que des grosses d'ailleurs, mais surtout des petites, qui ne peuvent absolument pas se le permettre.
Non.
Et donc ça veut dire énormément de licenciements. Et en plus de ça, une augmentation des prix. Donc, pour tous ceux que ça ne concerne pas, l'augmentation du SMIC, ils vont avoir leur pouvoir d'achat qui va diminuer. Mais ce qu'ils ont dit, du coup, ce qu'ils ont répondu là-dessus, le nouveau Front Populaire, c'est qu'ils ont dit, si effectivement on a des entreprises qui ont du mal à pouvoir augmenter leurs salariés au niveau du SMIC, à ce moment-là, on va subventionner les entreprises pour qu'elles puissent le faire.
Et vous dites, oui, alors c'est une idée intéressante, c'est celle, vous savez, c'est toujours celle du sapeur camembert, dans la théorie keynésienne du sapeur camembert. Le sapeur camembert avait été chargé par le sergent, comment il s'appelle le sergent d'ailleurs, je sais plus, bref, le sergent, de faire un trou pour mettre des ordures. Donc, bon, il fait son trou, il met les ordures dedans, puis il va voir le sergent et il lui dit, sergent, qu'est-ce que je fais de la terre? Et le sergent le regarde et lui dit, mais vous avez qu'à faire un autre trou. Et, ce que je veux dire. Et c'est vraiment, ouais. C'est la doctrine économique du Parti Socialiste, ouais. Oui. C'est ce que j'appelle la doctrine économique du trou du sapeur camembert, quoi. Ouais. C'est, on met quelqu'un en faillite ici, c'est pas grave, on va le subventionner. Oui. Avec quel argent? On s'en fout, ça. C'est,
oui. Et à chaque fois, en fait, on recule à chaque fois le paiement et ça termine systématiquement sur la dette.
Ça termine justement sur la dette, mais maintenant, on va avoir des problèmes avec l'Europe. Ouais. Parce que l'Europe, à un moment, elle va dire, écoutez, les gars, vous êtes encore à 6% du PIB d'endettement, vous n'avez pas le droit de dépasser 3%. Maintenant, comme vous n'êtes plus des bons Européens convaincus, comme vous êtes des gens qui avaient grogné contre l'Europe, on va vous interdire, on va vous mettre des amendes. Et c'est là que ça va péter.
Ouais.
Parce que comment on paye des amendes quand on est ruiné?
Ah bah, on peut pas, on est insolvable. C'est pareil pour les personnes privées, c'est juste pas possible.
Vous êtes pas un économiste socialiste, ouais.
Non. Ça, je prends comme un compliment. Je prends comme compliment. Je poursuis. En matière de logement, le président du RN a redit son souhait de libérer les interdictions qui sont, à son sens, excessives. Concernant la location ou l'achat d'un bien en cas de mauvais diagnostic de performance énergétique, donc ça c'est l'histoire des DPE. D'ailleurs, je crois que vous en aviez parler, je crois, avec Furfari, il me semble.
Une histoire de fou.
Ouais. C'est les histoires, vous savez, de performance énergétique qui vont de A à G, quelque chose comme ça. Et c'est assez souvent mal foutu. Il y a beaucoup d'experts il y a des gens qui ont fait des tests comme ça. On demande à plusieurs experts de faire justement le diagnostic DPE. Et on en fait 4 ou 5. Et les 5 donnent une note différente qui vont, je sais pas, de B à E, quoi. Des trucs vraiment qui n'ont rien.
Mais ça dépend qui enfile le billet aussi.
C'est un peu ça, forcément. Donc, il souhaite également assouplir les contraintes environnementales excessives imposées par l'objectif de zéro artificialisation nette, qui consiste à limiter toute extension de l'artificialisation d'ici 2050. Donc ça, cette histoire de virer le DPE, qu'est-ce que vous en pensez?
Encore une fois, c'est... Le but de tout fonctionnaire compétent, c'est bien sûr de ne rien faire et de ne rien laisser faire. Donc, comme le dit Elon Musk, il dit en Europe, ils sont tellement occupés à faire des réglementations dès quelque chose de nouveau sort, que d'ici quelque temps, tout sera mort et on sera tous complètement éteints et on ne pourra plus bouger simplement parce qu'il y a une réglementation qui vous interdira de faire vos lacets, quoi. Donc, il y a 90% de l'activité humaine qui a pas besoin de réglementation. Et je me souviens, quand j'étais aux États-Unis, il y avait eu un bordel noir parce que d'un seul coup, il y avait l'État fédéral, je crois, qui avait décidé que pour être coiffeur, il fallait passer des diplômes. Et il y a des gens qui avaient regardé combien il y avait de business qui était fait aux États-Unis où il n'y avait pas besoin de diplôme. Et puis, en l'espace de 40 ans, il fallait des diplômes pour être coiffeur, il fallait des diplômes pour cirer les godasses, il fallait des diplômes. Donc, vous vous dites, mais quels sont les crétins? Bon, il faut être des diplômes pour être avocat, soit il faut être des diplômes pour être docteur, soit ça va, pour être architecte, pour faire un pont. Mais pour être coiffeur, pour être épicier, pour être... Et aujourd'hui, si vous voulez faire une société française, je crois qu'il faut littéralement avoir une licence en droit pour pouvoir la présenter le dossier. Donc, vous dites, mais on est vraiment géré par des imbéciles, quoi. La liberté humaine ne peut pas être contrainte par des réglementations. Et c'est tout le drame de nos sociétés qui me rend fou, c'est que nos systèmes politiques ont donné des droits de réglementation et de punition à des gens à l'extérieur d'eux-mêmes qui ne sont pas élus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas virer l'administration de la sécurité sociale. Allez. Ouais. On ne peut pas changer de fournisseur, on ne peut pas les virer.
Ouais.
Mais ils peuvent nous emmerder jusqu'à plus soif.
Ah, oui.
Et donc, ce qu'il faut, si le Rassemblement National veut, c'est couper dans tous ces trucs.
Ouais.
Moi, il y a quelques années, dans au Parlement canadien, qu'un truc qu'ils avaient inventé, que je trouvais très bien, c'est que s'ils votaient une loi, qui était très con parce qu'il y avait quelqu'un qui s'était fait violer dans un coin et tout le monde était très ému, bon, ben, vous votez une loi contre le viol, et puis voilà. Et 3 ans après, si personne ne demandait la prorogation de la loi, elle disparaissait.
Ah oui.
C'est-à-dire, donc, on devrait lancer comme ça peut-être des interdictions d'aller faire pipi sous les arbres, j'en sais rien.
Ouais.
Et si au bout de 3 ans, personne ne l'a réclamé, pas ça va. Ouais. Donc, le but du Front National, c'est pas de nous trouver des nouveaux trucs qui vont faire eux.
Oui, oui.
C'est de couper tous les trucs qui nous empêchent de faire. Ouais. Il faut taper. Mais pas tellement dans. Mais simplement dans l'emmerdement.
Oui, oui, effectivement, c'est que il y a tout un tas de trucs, tout un tas de blocages qui sont essentiellement administratifs. On se dit,
mais qui leur a donné le droit?
Qu'est-ce qu'on s'est emmerdé à faire ce truc, quoi?
Non, mais qui leur a donné le droit?
Oui. Comment on s'est retrouvé là-dedans et comment on peut retirer ça?
Par exemple, là, ma banque, je reçois un papier.
Ouais.
Il fallait que je le remplisse. Et c'était l'état de ma fortune. Alors, je vais mettre des croix, plus de 500 000, plus d'un million, plus je sais pas quoi. Mais je me dis, pourquoi la banque a besoin de savoir l'état de ma fortune? En quoi ça la regarde? Il n'y a aucune raison.
Ouais.
J'ai le droit de savoir. Moi, je déclare mes revenus. Mais je vois, je devrais déclarer mon capital, et surtout pas à ma banque.
Ouais.
Pourquoi? Pour qu'elle envoie une fiche sur moi à Bercy? En disant, ouh, attention, là, il y a un type que vous devez
regarder. Ça, justement, c'est dans le programme du Nouveau Front Populaire. Eux, ils veulent taxer le capital.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est pas juste ce que vous gagnez, c'est ce que vous avez. Ils veulent vous prendre, je crois, 3% par an, et ensuite vous vous démerdez pour avoir de la rentabilité avec une difficulté maximale de moins 3% de performance garantie.
Oui, ça veut dire que si vous avez un capital important, bah, vous le menez avec vous tranquillement et vous allez vous installer en Italie ou au Portugal.
C'est sûr.
Donc tout ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement l'absence de démocratie, c'est les excroissances qui sont passées depuis 20 ou 30 ans de gens à qui on a donné les pouvoirs du souverain, mais qui ne sont pas soumis au vote. C'est-à-dire toute cette espèce de monde réglementaire qui est là, qui nous bouffe, qui nous étouffe. Et qui
menace justement de bloquer le pays si jamais la démocratie s'avère fonctionnelle, en l'occurrence en faveur du Rassemblement
National. Mais surtout, qui a donné le droit à ces gens-là, quand même? C'est-à-dire, on a fait des délégations de souveraineté à des gens qui ne sont pas élus.
Ouais. Oui, c'est sûr, plus ça prend de l'ampleur, plus après on se dit, mais c'est
si vous
comment
avez
on revient en arrière.
Si vous vivez dans un monument historique, ben vous n'avez pas de peau, parce que l'administration des monuments historiques a beaucoup plus de droits sur votre propriété que vous-même.
Ah oui.
Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas faire un trou.
Ouais.
Sur les premiers, vous dites... Du coup, tous les monuments s'écroulent.
Oui.
Parce que personne ne peut rien faire. L'administration l'interdit. Donc, on est dans un monde où l'action individuelle, et surtout la somme des actions individuelles, est supposée amener à des résultats désastreux. C'est le principe de base. Alors que le principe du libéralisme, c'est que quand les gens font ce qu'ils veulent pour eux-mêmes, en principe, ça marche mieux que quand quelqu'un fait pour eux, quoi.
Oui.
Et donc,
tant que ça ne nuit pas aux autres.
Donc, on voit bien que ces gars-là pensent que si vous et moi, on prend la décision, je ne sais pas, de venir au bureau en patin roulette et que tout le monde le fait, ça va mener à des résultats désastreux. Mais ça ne vous regarde pas.
Oui. Oui, non, c'est sûr, la liberté est vraiment pas une valeur appliquée stricto sensu en France.
C'est-à-dire, c'est pas la liberté, c'est les libertés. Ils nous détruisent toutes les histoires de liberté au nom, on n'a plus les libertés, au nom d'une espèce de mythe qu'ils ont créé, qui est la sécurité, ou j'en sais rien.
Oui,
donc c'est les libertés qu'on détruit une
par
une.
Oui,
l'intérêt général, on détruit une par une. Mais la liberté, c'est une notion un peu fasciste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la liberté d'élever mes enfants comme je veux, la liberté d'aller à l'église, la liberté de ne pas me faire vacciner si j'en ai pas envie, enfin, on va dire.
Ouais.
Ça, c'est des libertés pratiques. Hein.
Ouais.
La liberté théorique, ça m'intéresse assez peu.
Et alors, il y a une liberté qui, je pense, peut vous intéresser aussi, c'est la liberté de transmettre ce qu'on a envie à ses enfants.
Voilà.
Donc ça aussi, il le propose, en accord avec Éric Ciotti, le président du Rassemblement National entend supprimer les impôts sur les héritages direct pour les familles modestes et les classes moyennes, et créer une exonération de donation des parents à leurs enfants, des grands-parents à leurs petits-enfants, jusqu'à 100 000 euros par enfant tous les 10 ans, contre 15 aujourd'hui.
Bah, encore une fois, une baisse des impôts qui me plaît. Moi,
voilà,
je veux jamais
plutôt dans le bon
des
sens.
Impôts, par contre,
faudrait peut-être même aller encore plus loin, mais ça va déjà dans le bon sens. Ensuite, entreprise et agriculture, affirmant sa volonté de déverrouiller toutes les contraintes qui pèsent sur la croissance, Jordan Bardella veut lancer dès l'automne, en concertation avec les acteurs économiques, des états généraux de la simplification. En attendant, le RN au pouvoir décrétera une pause réglementaire dans les surtranspositions européennes, c'est-à-dire le fait d'y ajouter des exigences pour aller vers une sobriété normative. Bon, ça, ça veut pas dire grand-chose en termes réels.
Non, mais ça veut dire
qu'ils
vont peut-être arrêter les conneries, quoi, déjà.
Oui, voilà. Sur la question des salaires, Bardella promet de donner la possibilité pour les entreprises d'augmenter les salaires sans peser sur le coût du travail et sur la compétitivité, en leur permettant d'augmenter les salaires de 10% sans cotisation patronale pendant 5 ans, et
ça,
cela jusqu'à 3 fois le SMIC, soit jusqu'au salaire de 5 300 € brut mensuel.
Ça, c'est très bien, ça.
Voilà.
C'est très bien.
En matière de soutien à l'agriculture, le président du RN propose un grand plan manger français pour atteindre 80% de produits français dans les cantines scolaires à l'horizon 2027.
Ça, c'est idiot, ça.
Ouais, c'est du protectionnisme, quoi.
Mais c'est des produits purs. Il ferait mieux d'organiser des promotions des produits français à l'étranger, oui.
Ouais. Je suis un peu d'accord avec ça. Et enfin, sur l'agriculture, tout ça, Bardella souhaite interdire les importations de produits agricoles ne répondant pas aux standards appliqués en France, actant l'échec des lois Egalim qui visaient à mieux rémunérer les agriculteurs. Voilà, c'est ce dont on parlait il y a quelques semaines avec
les cerises, etc. Oui, ça n'a pas été normal. Que les paysans français et les paysans turcs aient les mêmes contraintes.
Oui, forcément qu'on n'importe pas ce qu'on n'a pas le droit de produire dans notre pays.
Ça me paraît idiot, ça.
C'est un peu, effectivement, voilà. c'est ce qu'on appelle les clauses miroirs. C'est un peu du bon sens, en fait. Hein, il n'y a pas besoin de faire 15 ans d'études, voire même, c'est plutôt le contraire. Voilà, en gros, ce que j'avais envie d'évoquer aujourd'hui.
Donc, on va avoir des résultats la semaine prochaine, et pour moi... Le truc important la semaine prochaine, il n'y en a qu'un seul, c'est dans combien de circonscriptions le parti du président tombera en dessous de 12,5%
des inscrits.
Effectivement, c'est ça le truc le plus important.
Forcément, ça dépend beaucoup de la participation, parce que par conséquent, 12,5% des inscrits, si vous avez une participation de 50%, pour être au second tour, il faut avoir fait, soit il faut arriver premier ou deuxième, soit il faut avoir fait 25% des voix. Et ensuite, ça diminue en fonction de la participation. Et alors, selon plusieurs instituts de sondage, on devrait avoir une participation aux alentours des 63-65%.
Je crois qu'on aura plus.
Il peut y en avoir plus, effectivement. En général, plus on se rapproche du scrutin, plus la participation annoncée augmente. Ensuite, ça dépendra aussi des circonscriptions. C'est-à-dire que il y a des circonscriptions, notamment dans les villes et tout, où Renaissance est vraiment très élevée. En revanche, dans la France périphérique, c'est quand même moins le cas. Quand on regarde les élections européennes, circonscription par circonscription, ils ont fait vraiment des scores très faibles dans la France périphérique, dans les campagnes. Très en dessous des 15% souvent, donc c'est assez alarmant pour eux. Ils risquent de pas être dans beaucoup de triangulaires, mais ils risquent d'y en avoir peut-être entre 100 et 150, quelque chose comme ça. J'ai vu un truc aussi ce matin qui était intéressant, c'était le vote barrage. On demandait aux gens s'ils comptaient faire barrage contre, que ce soit contre le Nouveau Front Populaire, contre le gouvernement actuel ou contre le RN. Et même à ma propre surprise, en fait, c'est le barrage contre le Rassemblement National, c'est le plus faible. 41% des gens disent vouloir faire barrage au Rassemblement National, c'est moins que pour les deux autres. Donc c'est vraiment...
Aujourd'hui, donc, votez bien. Vous aurez voté quand vous regarderez ça, sans doute, mais ça ne vous empêche pas de bien voter.
Voilà, tout à fait. On essaiera, dans la mesure du possible, de mettre cette émission en ligne quand même avant le premier tour, même si je ne le garantis pas forcément, mais si je la reçois avant, elle sera publiée avant. Voilà. Je vous remercie bien sûr pour votre attention. Je rappelle que ces émissions sont disponibles en format podcast sur Deezer, sur Spotify et sur Apple Podcast. Je vous rappelle aussi, parce qu'on en parle assez peu souvent dans ces émissions, mais que l'Université de l'Épargne est active, bien sûr, depuis un petit mois.
Ça donne un boulot, ce truc ?
Oui, ça demande un boulot, mais à la fois c'est
intéressant.
Moi, je suis très content de faire ce boulot-là. Je trouve ça vraiment très intéressant parce que je m'instruis tout seul et en même temps j'instruis les autres, donc c'est vraiment. Je trouve que c'est au poil. Donc voilà, vous pouvez aussi vous inscrire bien sûr sur l'Université de l'Épargne. Je mettrai le lien dans la description si jamais vous ne l'avez pas. Donc sur ce, je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Daily d'opinion. La semaine prochaine, ce sera le dernier du coup. Et qu'on fera peut-être en visio d'ailleurs
parce que je serai
vous serez avec les cigales
et sous les platanes,
voilà,
avec mon Châteauneuf du Pape à la main.
Voilà, très bien. Ça aura lieu à une bonne émission, je pense.
Merci beaucoup.
Je vous remercie beaucoup et puis bah à la semaine prochaine.
Bientôt.